Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, rezut, et rezut derrière.
Ah, je vois un monsieur se fout de moi, monsieur Fedironi.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Old is beautiful, le vieux, c'est très joli, j'en sais quelque chose, c'est dans mon vieux pote qu'on fait les meilleures croûtes. Tout simplement, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cinéma de patrimoine, les films d'hier et d'avant-hier qui nous ont marqués, qui ont aussi marqué le médium et dont il y a bien des choses à dire. Pour en discuter autour de cette table avec moi, se trouve Sophie.
Hello.
Alexis.
Salut Simon.
Et celui dont le prénom rime avec Arthur. Arthur.
Ouais.
Elle est bien cette vanne.
J'aime bien.
Elle est bête, ouais. Mais j'aime bien.
Tous ensemble, nous allons vous parler d'un petit classique parfois un peu oublié alors qu'il a marqué des jalons importants tant pour sa réalisatrice que pour le cinéma indépendant américain de l'époque. Nous sommes en 2005 et sort Les Seigneurs de Dogtown, film qui va se consacrer à la chronique ensoleillée, lumineuse, mais pas que, d'un groupe de skateurs en Californie.
Oh my god, it's some type of aerial maneuver I've never seen before.
Next up, Jay Adams riding for Zephyr Skateboards. Stacy Peralta.
Tony Mad Dog Alba.
It's only gonna get bigger and bigger and bigger.
To the boy kings.
Well, they do now.
We can't bail on Skip. We're Z-Boys. We're family.
You need to keep pushing, man.
Hey Tony, it looks like it's gonna be you or me, man.
No, it's not. It's me.
We're gonna be on summer vacation for the next 20 years.
Les Seigneurs de Dogtown de Catherine Hardwicke. Si cette metteuse en scène, pourtant très intéressante, est aujourd'hui un peu oubliée d'une partie de la cinéphilie, c'est parce que, on le verra, la suite de sa carrière se montrera chaotique, voire radioactive. Pourtant, Catherine Hardwicke fut et demeure une autrice, une créatrice extrêmement intéressante qui se passionnera initialement pour la chronique adolescente. Il faut bien voir qu'elle va acquérir ses premières lettres de noblesse tant en tant que réalisatrice que créatrice intelligente d'un découpage issu du documentaire et issu justement d'un faux travail du naturalisme, mais aussi en tant que directrice d'acteur. J'en veux pour preuve son film précédant Les Seigneurs de Dogtown, 13, qui s'intéressait aux influences complexes, tendres, problématique, voire chaotique, entre deux adolescentes, l'une d'entre elles étant notamment interprétée par Evan Rachel Wood. On notera dès ce premier film le talent, la capacité de la metteuse en scène à allier un cinéma qu'on aurait tort d'appeler un peu trop vite cinéma vérité, en même temps une forme de style extrêmement sensuel, extrêmement charnel, porté sur les couleurs, porté sur un découpage faussement lâche, mais en réalité souvent acéré, et qui donne une place aux carnations et aux corps extrêmement importante. Et puis elle va enchaîner avec le film qui demeure à date probablement sa proposition la plus forte et la plus aboutie, Les Seigneurs de Dogtown. Et là je vais peut-être commencer à passer la parole à mes camarades.
Bah juste Simon, tu peux quand même dire quel est le film suivant. Les auditeurs ont le droit de savoir.
Alors s'ils ont le droit de savoir, on va même parler des films suivants, parce que Catherine Hardwicke va être appelée pour diriger le premier Twilight.
Et voilà.
Il se trouve que Twilight étant on va dire le puissant fond de ces bombes qu'il est, on a un peu oublié que le premier Twilight est pas si mal mis en scène.
Alors oui, mais c'est marrant parce que tu parlais de la couleur de 13 et à quel point c'était pétant. Twilight, c'est l'exact inverse. C'est terne as fuck.
Ah bah c'est l'écran total du cinéma, hein. C'est une évidence. C'est
comme son segment dans le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, qui est très très gris, très 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 gris.
Julie in the Witch House.
Ouais.
Absolument. Et comme ce qui est sans doute ce qu'elle a fait de pire, à savoir le Chaperon Rouge, qui fut une tentative post-Twilight, quand commençait à arriver très fort dans le cinéma hollywoodien ce qu'on appelait le young adult, à savoir en gros des histoires de triangles amoureux avec des puceaux qui osent pas se toucher, et donc qui était une relecture du Chaperon Rouge avec la...
Oh, wow. Ouais, avec, je connaissais pas le projet, je viens de voir là, Amanda Seyfried, Gary Oldman, Julie Christie, Lucas Haas, il y a quand même des beaux noms quand même.
Gros casting, ouais.
Il y a que des beaux noms, et si tu veux, c'est à peu près, comment dire, c'est chaud comme une baguette congelée, quoi.
Ok.
Et donc voilà, c'est le film qui a un peu, parce que ça a été un énorme bide, terminé sa carrière auprès de la critique et grosso modo de l'industrie en tant que réalisatrice de premier plan. Mais aujourd'hui, on va revenir sur Les Seigneurs de Dogtown, qui est une proposition assez intéressante, particulièrement solaire et d'une grande richesse tant thématique que filmique.
Moi, j'avais jamais vu le film et c'est un film pourtant que je voulais voir depuis vraiment longtemps parce que, gosse, quand j'étais jeune adolescent, j'ai erré de longues heures, alors d'abord devant MTV, puis sur YouTube, à regarder des vidéos de skate. J'étais passionné par ça parce que j'étais nul en skate et que je voulais être bon en skate et que j'arrivais pas à être bon en skate. Le premier truc qui m'a frappé en voyant le film ce matin, c'est qu'elle, Catherine Hardwicke, a réussi à reproduire les codes de la culture underground des années 90 où on porte la caméra à la main, où on filme de très près. Vous savez, quand les skateurs sautent au-dessus de la rambarde, de la piscine vide. Bref, elle réussit à reproduire tous ces codes-là alors qu'il me semble que le skate n'a jamais été vraiment filmé au cinéma. En tout cas, pas cette culture-là. Et du coup, moi, il y a un vrai geste de mise en scène qui me fascine.
Le gars, il n'a jamais été pris sérieusement. Ça n'a jamais été un objet sérieux de cinéma.
Là, donc, non seulement sur le fond, c'est un film qui va s'intéresser sur comment des surfeurs vont inventer le skate moderne dans les années 75, 76, 77, mais en plus, ça reprend les codes de la culture des années 90, alors qu'elle tourne le film en 2005. Donc, moi, il y a un double jeu que je trouve vraiment fascinant. Et puis, tu l'as dit, dans la colorimétrie, dans les tons, on est vraiment dans la Californie des années 70. Et c'est coloré, et en même temps, c'est pas non plus idéalisé. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'à un moment, c'est les Beach Boys, quoi. Qu'on pourrait penser que c'est tout joli, machin. Non. Attention, Venice Beach, à l'époque, c'est quand même un quartier craignos et pauvre. S'il s'appelle les Dogtown, c'est pas pour rien. Hein, c'est que c'est vraiment un quartier populaire. Et dans
avec
le sens...
des chiens.
Ouais. oui, voilà. Dogtown. Non, mais voilà. Et je trouve qu'il y a un très beau geste de la part de la cinéaste de vouloir raconter la naissance d'un mouvement en reprenant ses codes, en rappelant d'où ça vient, c'est-à-dire que ça vient vraiment de trois branlos qui traînaient avec un gars qui tenait une petite boutique. À noter quand même malgré tout, parce que j'ai fait un tout petit peu mes recherches, qu'il manque un personnage assez central dans les Z-Boys de Dogtown qui s'appelle Jeff O. En fait, vous savez, le personnage de S. Ledger qui s'appelle...
Skip.
En fait, il tient une boutique et il a créé la boutique des Z-Boys après. En fait, ils étaient deux. Voilà. Mais bref, à part ça, elle reprend vraiment l'histoire et elle raconte l'histoire via trois personnages qui vont avoir des destins vraiment différents. Et ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu, le côté bande de potes. Ils sont tous ensemble et la vie va faire qu'il y en a un qui va partir sur l'ego trip compétition, l'autre qui va essayer de survivre, pendant que l'autre va partir en mode vous me faites suer et moi je vais aller traîner avec le gang de Latinos. Voilà. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, moi je voulais commencer sur ça. Je trouve qu'elle comprend la culture skate, ce qui est ouf. Parce qu'elle aurait pu passer totalement à côté de ce sujet-là, précisément.
Bah, je pense qu'il y a un truc lié à la culture skate qui fait que ce film-là, que, comme toi, Arthur, j'ai découvert là pour l'émission, il y a un truc qui est assez fascinant dans la culture skate. Et moi, j'ai pu en être le témoin indirect parce que j'avais pas mal de potes au lycée qui étaient eux-mêmes skateurs. Bon, qui n'étaient pas skateurs à Venice Beach, mais à Mayenne. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes spots. Mais
ah bon ?
J'ai trouvé ça très curieux de voir un film qui se déroule dans les années 70 et qui reconstitue quand même plutôt fidèlement les années 70 et de voir des jeunes gars fringués exactement, mais vraiment exactement comme mes potes skateurs en fait. Et c'est en voyant ce film là que j'ai compris que la culture skate qui prend son ancrage il y a quand même maintenant presque 50 balais, hein,
ouais.
Et bah elle a quasiment pas bougé, quoi. Le lifestyle des skateurs, ce truc de on se retrouve en bande, on va chercher des spots, des endroits où on peut faire du skate et pratiquer notre sport légalement ou illégalement, on porte certaines fringues, certaines chaussures et pas d'autres parce que bah on a besoin entre guillemets d'un équipement et en même temps c'est plus qu'un équipement, quoi. C'est une espèce de ouais, c'est un étendard culturel et c'est assez fou de voir que alors que dans la pop culture il y a régulièrement des révolutions qui viennent écraser des révolutions précédentes, ça a été le cas avec le funk et la disco par exemple qui ont remplacé le rock comme musique populaire, la culture skate, elle a pas bougé d'un pouce. Et du coup, ça crée un truc qui est assez fascinant dans le film et que je pense Catherine Hardwicke avait déjà saisi à l'époque, c'est que on est vraiment face à un film qui sent les années 70 et qui en même temps a l'air d'être totalement contemporain de son époque de sortie, en fait. Et ça s'incarne surtout dans la mise en scène, parce qu'il y a un côté documentaire, certes, mais c'est Sophie, d'ailleurs, qui me l'a fait remarquer quand on regardait le film, il y a une vraie esthétique MTV. Il y a une esthétique clipesque, avec des plans de caméras embarquées, accrochées au skateboard, des ralentis, enfin des effets de style très marqués, qui sont des effets de style, à l'époque, beaucoup plus télévisuels que cinématographiques.
Télévisuel, et en même temps, à l'époque, ces bandes de skateurs, s'ils se filment comme ça, c'est pour eux. Hein. C'est pas voué avant que MTV prenne ces codes-là, c'est d'avoir les VHS qui se partagent entre potes. Hein.
Bien sûr.
Et alors, toi, Sophie, justement, sur cette école esthétique, sur la manière dont Catherine Hardwicke va convoquer tous ces motifs-là pour les ramener, on va dire, à leurs origines ou questionner leurs origines, à savoir la naissance du skate et de la vie skate dans les années 70, que peux-tu en dire ?
Alors, comme les garçons, j'ai pas mal passé de temps à regarder MTV et c'est le premier truc qui m'a fasciné, c'est le côté on fait des vidéos de skate. En fait, ce qui est rigolo, c'est que le film sort comme on l'a dit en 2005 et qu'il est donc un espèce de film intemporel. C'est exactement ce que t'as dit, Arthur, qui est on filme les années 70, mais ça y ressemble pas. Ça a des codes visuels des années 90 qui sont déjà datés par rapport aux années 2000 et donc on est sur quelque chose, un objet complètement hybride, le tout avec une photo qui ne cesse un petit peu de changer. En fait, le film est assez multiple. C'est-à-dire que au début, quand ils font du surf, on le filme pas du tout avec le même angle, avec le même découpage que quand ils commencent à faire des compétitions de skate. Et même dans l'évolution du skate, j'ai l'impression que quand ils font juste des entraînements en ligne droite, on n'est pas avec le même genre de focal que quand on va dans l'intérieur de la piscine et quand le sport commence à évoluer de manière professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Du coup, j'ai réfléchi un peu, je suis allée regarder les autres films de skate qui ont été un peu marquant. Il y en a que j'ai vu, il y en a que j'ai pas vu. Et en fait, on se rend compte que c'est un genre beaucoup plus ancré dans... Alors, c'est un peu des films de la même époque, hein, c'est des films assez récents, mais on filme le skate des années 90. On filme pas le skate des années des années 70. Même là, celui qui a marqué récemment, c'est 90s de Jonah Hill, qui donc du coup parle de la jeunesse des années 90. On peut penser évidemment à Paranoid Park de Gus Van Sant, mais qui ne parle pas du tout de compétition, mais uniquement de la jeunesse qui utilise ce sport aussi comme moyen identitaire. Et moi, j'avais vu un tout petit film, pas très connu, qui s'appelle Skate Kitchen. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, de 2018, de Crystal Mosel, qui là, pour le coup, va filmer comment des nanas s'approprient le sport, mais pas de manière compétitive, uniquement de manière, encore une fois, groupe et d'identité. Ce que je remarque, c'est que peu importe l'époque à laquelle tu vas filmer le skate et comment tu le filmes, c'est toujours un sport cool. C'est-à-dire que ça, on peut pas l'enlever. Là où dans 13, elle filme quelque chose de vraiment plus dépravé, quelque chose d'un peu... Alors ça, je mets pas de jugement de valeur, hein, mais d'une jeunesse torturée, là, peu importe les parcours de vie, le skate est toujours filmé comme quelque chose de cool, que ce soit de leur coupe de cheveux à la manière dont ils vont utiliser le design des roues, il y a quelque chose d'un peu attractif et de dynamique. Et donc moi, c'est un petit peu ça. La manière dont elle le représente, ça s'inscrit dans quelque chose d'assez intemporel qui va de pair avec la manière dont on représente le skate de manière générale dans le cinéma.
Et alors, ce qui est vraiment hyper intéressant à savoir par rapport à tout ça, parce que j'ai fait des recherches, ça m'a vraiment intéressé, on trouve le film intemporel. Et on trouve que le film fonctionne encore quasiment 20 ans après. Le film a failli ne jamais voir le jour. Parce que, en fait, les producteurs ont eu beaucoup de mal à financer le film. Et ils ont dû aider au financement d'un documentaire que Stacy, le personnage joué par John Robinson, vous savez, c'est celui qui a les cheveux longs mais lisses, était sur le point de faire, qui racontait l'histoire des Dogtown et des Z-Boys. Et les producteurs ont voulu financer ce docu pour que le docu ait un minimum de succès, pour pouvoir permettre de vendre le film et de donner même une identité visuelle au film. Et il se trouve qu'en fait, le docu a été un gros carton, qui a eu des prix à Sundance, et que voilà, il a fallu que ce documentaire fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai vu que sur Internet, plein de gens préfèrent le documentaire au film. J'ai pas vu le docu, donc je peux pas me prononcer. Mais en tout cas, sachez que voilà, le film a failli ne jamais voir le jour, quoi.
Et en plus, bah, ils ont eu du mal à trouver une réalisatrice, enfin en tout cas un réalisateur ou une réalisatrice, mais ils sont tournés vers Catherine Hardwicke. Mais le film est passé par plusieurs passes de réécriture, et notamment une par Roger Avary.
Oh waouh.
Oh.
Voilà, c'était l'anecdote du jour.
Oui, on peut peut-être expliquer qui est Roger Avary.
Roger Avary, qui est un scénariste connu des cinéphiles et des cinéphiles qui a arpenté les cinémas dans les années 90, qui a notamment collaboré avec un certain Tarantino, et voilà, Roger Avary, qui en général aime bien quand ça sent la cordite, le sang et les guns qui fument.
C'est donc pas trop ce film, quoi.
Bah, alors je te dirais, en même temps, je trouve que c'est pas si étonnant ou si absurde, parce que moi, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai revu le film pour l'émission. Je fais partie de tous ceux qui ont découvert la culture skate, grosso modo, hein, il faut le dire, avec la PlayStation et avec Tony Hawk. C'est-à-dire que
bien sûr.
Nous, mais oui, mais donc pour nous, c'était pas spécialement une contre-culture, c'était pas spécialement un message politique, c'était pas spécialement un mode de vie, c'était un truc super fun et super rigolo qui arrivait via un jeu vidéo très grand public et via un énorme marathon promotionnel. Et donc tout d'un coup, redécouvrir le film, c'est voir quoi ? C'est voir que après être arrivés au bout de leur ultime frontière, quoi, quand les Américains sont arrivés en Californie, sont arrivés à Venise, là où il y a la mer, quoi, ils peuvent plus aller plus loin. Bah comment est-ce qu'on fait encore pour bouger ? Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer ? Sachant que la mobilité et la manière dont peut s'exprimer la mobilité, ça a toujours été très important dans l'identité américaine. Parce qu'il faut contrôler ce territoire, il faut pouvoir s'y déplacer, s'y installer, le coloniser, le faire sien. Et puis ensuite, bah, ma foi, y évoluer, tout simplement. Donc, comment on se déplace, et comment on se déplace individuellement ou pas, technologiquement ou pas, collectivement ou pas, c'est fondateur dans la mystique américaine et dans le rapport que l'Américain a à son territoire. Et bah là, tout d'un coup, dans un film qui se passe donc dans les années 70, c'est-à-dire après la décennie des 60s et des hippies, c'est-à-dire le moment du grand désenchantement, ou en tout cas des derniers feux d'espoir avant le grand désenchantement, et je trouve ça très intéressant, tout d'un coup, de raconter des gens qui ne peuvent plus se déplacer au-delà, qui ne peuvent plus repousser la frontière, qui vont devoir inventer un nouveau mode de déplacement pour exister, pour donner un sens à leur vie, qui tout simplement est un truc qui pourrait paraître une régression, qui pourrait paraître être totalement archaïque face aux symboles que peuvent être d'autonomie, que peuvent être la moto, la voiture, qui vont mettre des roulettes sur des planches pour, si j'ose dire, faire du surplace, c'est-à-dire qu'ils ne découvrent pas de nouveaux territoires. Ils essayent de donner du style à leur manière de se mouvoir. Et donc, tout d'un coup, le film, quand bien il se passe au soleil, quand bien même on suit des personnages magnétiques et très puissants, emmenés notamment par Effletger, bah, quand bien même, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement désenchanté, moi, dans le film.
Oui, et je pense que c'est en grande partie lié à sa période historique. Puis il faut aussi, tu parlais du mouvement, il faut expliquer aussi que la culture skate est née aussi d'une absence d'opportunités, en fait. C'est-à-dire que, comme l'a dit Arthur en début d'émission, le quartier de Venice Beach, qui aujourd'hui, vous le savez si vous avez joué à GTA V, est vraiment un quartier prisé par les bourgeois et les touristes, qui est vraiment un quartier où il y a du divertissement, quoi.
Si vous avez regardé Californication.
Hein. Bah, par exemple, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous, je pense, en tête cette idée du grand parc d'attractions qui est sur la jetée à Venice Beach et qui aujourd'hui est flambant neuf et fonctionne parfaitement. À l'époque, il est complètement à l'abandon. Il est en ruine totale et tout le quartier n'est rien de plus qu'une espèce de ghetto pourrave. Et ceux qui habitent dans ce quartier, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller voir ailleurs, de se déplacer ailleurs au sens physique et au sens symbolique du terme, c'est-à-dire aller vers d'autres opportunités, en fait, ils vont apprendre à maîtriser leur territoire, effectivement. Mais il y a un truc que je trouve rigolo, qui m'a plu dans l'instant, parce que c'est une musique qui me parle, mais que je trouve particulièrement signifiant, c'est que le film s'ouvre sur un morceau de Jimi Hendrix. C'est-à-dire sur une icône des 60s, de l'utopie contre-culturelle des 60s, qui d'ailleurs est mort d'une overdose en 1970, donc il n'a pas vu cette décennie. Ou d'une autre manière, on pourrait dire que cette décennie-là, elle s'est littéralement ouverte avec la disparition très brutale de nombreuses icônes du mouvement hippie, avec en trio, en tête de gondole, Sharon Tate, assassinée par la famille de Manson, et puis Janis Joplin et Jimi Hendrix, donc, qui sont morts d'overdose. Et le film s'ouvre avec ça. Et toute la musique rock de la fin des 60s, début des 70s, va servir de bande originale au groupe de skaters. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'exception du personnage de Heath Ledger, on n'a jamais vraiment le sentiment que cette musique-là, c'est entre guillemets leur bande originale. J'ai l'impression que c'est ce que Catherine Hardwicke a voulu utiliser pour justement créer un commentaire des images qu'elle filme. Et là, il y a un peu une démarche scorsésienne, parce que moi, j'ai pas l'impression que ces mecs-là, ils aient fondamentalement envie d'écouter du rock. Parce que j'ai l'impression que le rock, c'est déjà un peu la musique de papa.
Déjà, elle est vitalisée pour eux.
Le personnage d'Heath Ledger, qui a clairement facile 10 ans de plus qu'eux,
ouais.
Lui, il écoute du rock. eux, bah, on les voit pas tant que ça le faire, tu vois.
À l'exception près d'une scène où Emile Hirsch, enfin non, le personnage incarné par Emile Hirsch, donc Jay Adams, débarque chez lui et se rend compte que son père est en train de partir et que tous ses vinyles avec et que du coup les vinyles sont cassés, qu'il pourra plus les réécouter.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que ce personnage-là, sans trop en révéler du film, à un moment il va culturellement changer.
Ouais.
Et à ce moment-là, il va vraiment parler de son style de musique, c'est le punk. Ouais. Un genre de musique qui est né de la désillusion des années 70. Donc il y a vraiment tout un truc sur la bande originale qui a l'air de loin d'être une bande originale un peu jukebox où on pourrait se dire ok, on a mis plein de tubes parce que ça permet de rythmer les images. En fait, pour moi, cette bande originale, elle commente les images en même temps que le film les montre et je trouve que c'est assez intéressant.
Oui, puis la surutilisation musicale pour le sport, on en revient à MTV.
Ah bah complètement.
On en revient au dynamisme pop, sauf que elle a réussi à combiner le signifiant et le pop. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça.
Bah bien sûr, ouais.
Pour une petite anecdote qui n'a aucune forme d'importance, mais que j'aime bien. En fait, moi, j'aime bien quand tout a l'air très concret, et notamment toutes les scènes de piscine. Certes, elle les filme en coupant complètement le haut du cadre, histoire qu'on ait l'impression d'être dans une bulle, et aussi pour enlever le côté un peu dangereux qu'il peut y avoir sur les zones de parcours de skate où on les voit vachement plus tomber, se faire mal, ou sur le bitume. Et là, c'est un peu les bulles enchantées du plaisir pur du sport. Pourtant, c'est dans une scène de piscine que Catherine Hardwick s'est pris un skate dans la gueule et s'est fait une commotion cérébrale.
Ah merde.
Voilà, donc genre juste il s'entraînait et il y a un skate qui est parti, elle s'est pris dans la gueule quoi.
Mais de manière... pif le petit chaperon rouge.
Mais de manière générale, c'était un tournage qui était assez compliqué, mais ce que je trouve fou, c'est que les trois acteurs principaux, donc je disais John Robinson, Emile Hirsch et Victor Razzouk, ont appris le skate. Mais pas un peu, c'est-à-dire qu'en fait, quasiment toutes les scènes que vous voyez dans les piscines, c'est vraiment eux qui le font. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord appris à juste se balader dans la rue, puis à descendre des pentes, puis à faire un peu le truc compétitif, puis à faire des rampes, puis à vraiment faire la piscine. Moi, je trouve ça ouf. Et tout à l'heure, on parlait de la manière dont est filmé les scènes, justement, reprenant l'esthétique des années 90. Petit cocorico, ils ont été chercher un cadreur français qui était spécialisé dans le skate, qui s'appelle Philippe Dussol. Voilà, parce qu'il était capable de filmer la vitesse, de filmer sur un skate, et ils ont été le chercher pour ça. Voilà, Philippe Dussol, si vous cherchez Philippe Dussol sur Philippe Dussol skate, vous pouvez tomber sur quelques petites vidéos YouTube. Voilà.
Et puis, signe encore, à mon avis, de la cinéphilie de Catherine Hardwick, il y a dans un petit rôle dans le film une comédienne qui est Rebecca de Mornay, qui s'est baladée du côté de la série B, du côté de tout plein de pans de cinéma de genre plus ou moins recommandable et plutôt pas du tout recommandable, et dont il est assez plaisant de voir qu'elle a été régulièrement invitée à montrer son talent, qui est quand même assez immense, dans pas mal de films très intéressants à partir des années 90-2000. Bah, en fait, tout simplement, quand les générations de spectateurs qui avaient découvert ados les films dans lesquels elle opérait ont eu envie de lui rendre hommage. Et donc voilà, jetez donc un œil à Rebecca de Mornay et à sa carrière.
Bah, tu parles des acteurs secondaires, il y en a quand même pas mal qui sont connus ou non déjà à l'époque, passent une tête. Moi, je pense déjà à deux actrices qui ne sont pas connues à l'époque, qui ont eu des carrières importantes dans la sitcom. On a America Ferrara qui sera Ugly Betty et après qui jouera dans Cloud Nine des créateurs de The Office. Et on a un tout petit passage de Sofia Vergara que vous connaîtrez dans Modern Family et qui est devenue pendant un temps l'actrice la plus payée des sitcoms hollywoodiennes. Et on a aussi un tout petit rôle de Jeremy Renner qui passe une tête.
Ouais, c'est vrai.
Genre vraiment 4 secondes.
Le sponsor nul. Mais il y a Johnny Knoxville aussi qui a un rôle assez important. Et Johnny Knoxville, pareil, Jackass,
MTV. Ouais, mais lui, pour le coup,
il
est déjà identifié alors que America Ferrara et Sofia Vergara, elles sont pas connues du
mais
tout à l'époque.
Mais il y a Pablo Schreiber aussi.
Et il y a un tout petit caméo que moi j'aime bien. Vous savez, il y a un moment où Tony commence à être connu, il fait des photos avec plein de stars et ils font une photo avec un astronaute. Un astronaute qui est incarné par Tony Hawk.
Bah oui, évidemment.
Ça, je trouve ça joli. Sachant qu'en plus, on sait que Tony, c'est Tony qui a créé l'écurie dans laquelle a été.
Ah, tu l'appelles Tony ?
Oui, j'appelle Tony, c'est mon poteau.
Oui, c'est ça. Alors, faut repréciser, faut recontextualiser pour les auditeurs, parce qu'il y a deux Tony dans l'histoire, donc faut bien clarifier. Ouais. Il y a effectivement donc Tony Hawk, la grande légende du skate qui, à 50 ans encore, a pété des records. Enfin, le mec est un dieu de sa discipline. Mais Tony Hawk, il a commencé sa carrière dans une écurie de skateurs qui a été créée par un autre Tony Alva, qui est donc l'un des trois jeunes hommes ouais. qu'on voit dans, dans Lords of Dogtown et qui est donc devenu lui aussi une légende du skate dans des circonstances un petit peu plus complexes que Tony Hawk.
Bah, ce qui est super intéressant dans ce qu'on dit là, plus que de dire il y a des caméos, il y a des gens du skate, qui ont... c'est que vraiment les personnalités du skate ont approuver ce film. Parce que c'est pas toujours le cas hein. Quand on fait des films sportifs ou des films biographiques sur des gens, des fois il peut y avoir des oppositions où on peut vouloir tellement se détacher de la vérité ou au contraire trop la coller qu'on peut avoir des interférences avec les personnes de la vraie vie. Donc par exemple, le vrai Skip N. Blum, on va dire que ça se prononce comme ça, je suis désolée, il est tard, c'est lui qui a demandé que ce soit Heath Ledger qui le joue.
Genre, d'accord.
Voilà. Donc par exemple, lui, il a dit je voudrais que moi je voudrais être lui, ce qui est toujours un
exercice. Je m'étonne qu'il est content moi aussi hein, si on veut faire mon biopic, c'est évidemment Heath Ledger mais maintenant qui me joue.
Ouch. Ouch.
Cela étant dit, je pense que c'est peut-être une de mes petites limites avec le film. Je trouve que tous les personnages n'ont pas la même profondeur. En tout cas, tous les acteurs n'arrivent pas à transmettre autant d'émotions que les uns que les autres, et je trouve que celui de Heath Ledger est... Pourquoi je dis Ledger, je t'imite alors que j'ai toujours dit Heath Ledger.
Non.
Le personnage incarné par Heath Ledger, je le trouve hyper touchant, mais vraiment trois fois plus que les gosses, en fait, enfin les gosses, les ados. Je trouve qu'il transparaît une espèce de mélancolie, en même temps il est cool d'être à l'origine du projet, et en même temps il se fait vite dépasser, ça devient has-been.
Est-ce que tu penses pas que c'est déjà parce que c'est la fin de sa carrière et que nous on connaît la suite et qu'on a projeté des choses? Parce que je me suis posé la même question quand j'ai vu le film, quand je l'ai vu, j'ai fait oh. Et du coup j'ai eu un attachement immédiat au personnage.
Ah, c'est possible, t'as
raison. Parce que genre j'ai fait oh non. Mais t'as raison, hein, son personnage est super bien écrit et super bien interprété. Mais par exemple, moi celui qui limite me parle le moins, c'est celui interprété par Emile Hirsch, alors que techniquement, en tant que personnage, hein, pas en tant qu'acteur, hein, mais vraiment c'est celui qui m'intéresse le moins des trois. Et pourtant,
ça, c'est normal, ça c'est une vieille règle de psychopathologie. Quand on voit Emile Hirsch, on a envie que son personnage meure. C'est pour ça qu'Into the Wild a une des plus belles fins de tous les temps.
Pour un très mauvais
j'ai pas
film.
Into the Wild, mais du coup je devine la fin maintenant.
Ouch. Ah, je suis désolée.
Oh,
t'inquiète pas, c'est un film nul.
Ah ouais,
super.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Non mais en fait, il y a un truc, on parlait de Heath Ledger et ça me rappelle que j'avais envie de parler de ça, parce que sinon j'allais l'oublier, comme l'a dit Sophie, il est tard. Non mais en fait, il y a un autre film dans les années 2010, lui pour le coup, pas dans les années 2000, qui a traité de la jeunesse américaine, en tout cas d'un certain aspect de la jeunesse américaine, et qui... lui aussi se passe sur des plages ensoleillées, caniculaires, qui est un film que je déteste copieusement, c'est Spring Breakers.
Ah.
Et j'ai été un peu surpris de voir, même si les deux personnages, par plein d'aspects, hein, sont différents, mais de voir dans la manière qu'avait Heath Ledger de camper le personnage de Skip, presque par instant, comme une espèce de prototype en version moins déglinguée quand même, hein, du personnage de James Franco dans Spring Breakers. Cette espèce de côté un peu planant, insaisissable, où on a l'impression en permanence que le personnage est copieusement défoncé, et en fait, d'un coup, il va être extrêmement lucide et perdre sa lucidité 5 minutes après. Enfin, vraiment, mais ça encore, c'est des personnages qui me touchent beaucoup, parce que j'ai croisé des gens comme ça en fait, dans ma vie. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont... parfois ancrés dans le réel et parfois complètement déconnectés, complètement dans leur fantasme. Et c'est ce que incarne le personnage de James Franco dans Spring Breakers. Je ne serais pas surpris que la prestation de Heath Ledger dans Lords of Dogtown ait un petit peu influencé cette caractérisation. Pour moi, il y a des vraies passerelles entre ces deux personnages qui, en plus, sont chacun à leur manière, le mentor d'une génération à venir, même si du côté de James Franco, c'est un mentor maléfique.
Oui, mais alors, je suis d'autant plus d'accord avec toi qu'il me semble que ce qui fait, au-delà de ses qualités ou de son travail, de sa besogne plastique, la qualité de Spring Breakers, c'est que c'est un film qui nous parle d'une culture qui s'est intégralement dévoyée dans la reproduction du même. Ce sont des gens qui ne sont que des reproductions de leur rêve de réussir à faire comme. Et donc, le personnage de Franco dans Spring Breakers, eh bien, c'est une espèce de caricature exténuée, hystérisée, électrisée, du type de personnage à la base bien réel et humain qu'on peut voir justement dans Les Seigneurs de Dogtown. Donc oui, pour moi, c'est évident. C'est le dévoiement de ce personnage-là.
Mais c'est du coup intéressant parce que peut-être on peut se demander ce que pourrait donner la mise en miroir de Dogtown et de Spring Breakers, avec d'un côté un film qui, certes, a déjà bien conscience que la culture, ou plutôt la superficialité de MTV et de l'imagerie d'MTV est un peu en train de faire du mal au monde du skate et à cette culture underground, mais qui est quand même capable de aussi comprendre que cette esthétique-là, elle est aussi un peu ancrée dans le réel et elle participe à rendre compte de ce que c'est.
Et elle fut à un moment ancrée dans du sens.
Voilà, et Spring Breakers, qui lui pour le coup est le film du post-MTV, où là vraiment, ça y est, c'est fini, la pop culture elle s'est faite éclater par la culture de masse, tout est simulacre, tout est pourri jusqu'à l'os et on va aller explorer cette pourriture. Peut-être que les deux films dialoguent plus que ce que je pensais en fait, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais
Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de voir le film et me dire... Ah, c'est marrant, ça pourrait être un film A24 maintenant. Et je dis ça parce que A24 a produit Spring Breakers. Ouais. Et qu'on a parlé de 90s tout à l'heure, et je trouve que ça colle un peu à cette image. Pas que l'imagerie, hein, mais le thème, la manière de faire. Je me suis dit, ah, c'est marrant, ça pourrait être un film A24.
Alors, quand j'ai vu le film, je me suis dit, waouh, c'est tellement artsy maintenant, mais en vrai, ça ne l'est pas. J'ai l'impression qu'avec du recul, c'est un film artsy, alors que c'est un film super populaire.
Oui, enfin, mais attention, qui a été reçu quand même comme tel, qui a été considéré notamment par la critique comme très sophistiqué. Hein,
oui, mais
moi, j'ai vu que les critiques ont été très méchantes avec le film. Hein.
Ah ouais,
ça a été vraiment méga mitigé. Hein.
Et pour en avoir parlé avec une amie qui, quand elle a su qu'on allait parler du film, m'a dit « Ah, tu verras, c'était trop mon film préféré quand j'étais ado parce que je faisais du surf, donc Clémence, je t'embrasse. » Et donc, en fait, ça s'est inscrit, je me suis dit, ah ok, c'est comme 13, sauf que j'étais peut-être pas dans cette culture-là exacte, mais c'est un film d'adolescence. Mais un film d'adolescence dans le plus noble sens du terme, hein, en tout cas pour les jeunes filles, comme Virgin Suicide, comme d'autres, ça veut pas forcément dire être décorrélé, hein, c'est pas forcément American Pie. Mais c'est un film vraiment populaire et accessible, c'est des jeunes qui font du skate, c'est une narration relativement simple, à savoir trois parcours de vie avec... des antagonistes avec qui va céder à l'appât du gain, qui va décider d'être carriériste, qui va rester proche de ses valeurs. Parce que quand je l'ai vu, c'est vraiment, c'est ce que j'avais dit à Alexis, j'ai fait c'est drôle, c'est un parfait mélange entre un clip MTV, comme on l'a beaucoup dit, et un Richard Linklater. Vraiment, c'est un parfait juste milieu et pourtant c'est super accessible à regarder.
Eh ben, alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, et en même temps, moi, je trouve que la narration, elle est linéaire, elle est simple à comprendre. Et pourtant, il y a des choix de structure que je trouve assez étonnants. Notamment, je me suis fait la remarque, il y a une scène à la fin du premier tiers, ou plutôt au milieu, de fête, qui va être le tournant de quelque chose et le moment où les trois destins vont vraiment se séparer. Cette scène est incroyablement longue. Et je dis pas ça comme un défaut, mais je me suis fait la remarque, la scène dure facile 15 minutes. Alors que c'est juste une teuf. Mais parce que c'est là qu'on voit les prémices de quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, on ferait cette scène beaucoup plus courte.
Mais c'est ce que je te dis exactement, c'est que aujourd'hui, on le voit comme quelque chose d'un peu original, on le voit comme quelque chose qui a des vrais choix narratifs et visuels qui sortent du lot, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ce genre de film pour ados. Maintenant, même après, elle est allée dans le film pour ados en faisant Twilight et en faisant Le Petit Chaperon Rouge, hein, je ne sais pas si c'est le vrai titre, mais on est allé sur autre chose. Mais techniquement, ce qu'elle fait depuis toujours, Catherine Hardwicke, c'est du teenage movie. Et c'était un teenage movie dans la bonne lignée de ce que c'était. Et c'est juste que maintenant, on n'a plus ces codes-là. Et donc maintenant, il s'est détaché.
Donc ce que tu disais, Sophie, moi, ça m'intéresse parce que je comprends ce que tu veux dire et en même temps... C'est une vraie question. C'est quoi ce qu'on appelle les teen movies, les films d'adolescence des années 90-2000, à part Virgin Suicides?
Bah, par exemple, on avait... Et c'est très large, hein, parce que bien évidemment qu'il y a des choses extrêmement commerciales et d'autres beaucoup moins. Dans ceux que je considère encore à la limite de l'artsy, on a des Napoleon Dynamite, par exemple, ouais. qui est un truc un petit peu weird. Bon, un peu plus tard, on a eu Juno, mais on a aussi eu du Lolita malgré moi. C'est vrai que je cite que du féminin, mais parce que bah, je suis désolée, hein, j'ai été une ado dans les années 90. Mais on a eu aussi on a eu Elephant. On considère que c'est du
avec
drame.
Avec Jim Robinson d'ailleurs.
Bah oui, c'est juste avant ou juste après.
Mais tu trouves que. Alors, je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression quand même qu'il reprend des codes visuels différents. Le fait de sursaturer la couleur, le fait de. Je trouve que c'est des films qui. Bah, Virgin Suicide, c'est le parfait inverse à ce niveau-là.
Bah oui, mais après, ce que je veux dire, c'est qu'on faisait encore beaucoup à l'époque, alors soit du très commercial, hein, encore une fois, j'ai cité pour les années 2000 American Pie, c'est sûr que c'est de la teenage comedy, mais on est sur quelque chose de codifié, mais malgré tout, on est encore dans le registre MTV, hein, faut pas l'oublier, c'est le pan vulgaire d'MTV. Cependant, n'oublions pas que les films préférés des ados de cette période-là, c'est aussi Donnie Darko, hein. C'est, ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a plus ce teenage movie proche du cinéma d'auteur américain. J'ai l'impression que vraiment depuis la période post-Juno, on n'a plus ce mélange...
90s.
Alors attention, est-ce que c'est pas
aussi... Bah oui, 90s, mais 90s, tu ne le montres pas à un ado de 16 ans.
Non.
Mais alors, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas aussi nous qui repeignons cette période-là en décidant de voir, parce que peut-être on était déjà un peu cinéphiles, parce qu'on regardait ces films-là, de nous dire que c'était les films d'ados de notre époque. Moi, Denis Darko, quand je l'ai découvert à l'époque de sa sortie, personne autour de moi ne savait ce que c'était, surtout les ados. Les Seigneurs de Dogtown, personne ne savait ce que c'était autour de moi. Je parle même pas de Virgin Suicide où tout le monde pensait que j'allais regarder des pornos bizarres.
Alors on a vraiment pas eu la même adolescence. Moi vraiment tout le monde.
Moi j'étais à la mine meuf. Hein.
Non mais vraiment moi quand j'avais 15 ans, les films qu'on avait tous regardés, et pas forcément tous à la même période. Dans les plus vieux, c'était Seven, etc. Mais on avait Trainspotting, on avait Requiem for a Dream.
Ah, mais attends, oui, mais d'accord, mais toi tu parles du moment bien après la sortie de ces films. Ils avaient déjà été digérés dans la pop culture. Moi, au moment de leur sortie, c'est pas du tout des films d'ados.
Mais alors, Sortine, moi j'avais. Il est sorti en
2003.
J'ai 12 ans, je le découvre à 14 ans, un truc comme ça.
D'accord, ok.
Ouais, mais
c'est des films qui vraiment, on en parlait entre copines de Sortine.
Moi,
hein,
j'ai un marqueur nul. Mais qui est selon moi représentatif.
Quelle couleur ?
C'est ma vision à moi. Mais c'est ma vision. On peut voir, selon moi, la popularité d'un film ou sa non-popularité, enfin, interprétez ça comme vous voulez, par la présence de DVD qui ont été publiés. À chaque fois que je vais dans un Emmaüs, à chaque fois que je vais en brocante, il y a des DVD de Seigneur de Dogtown. C'est-à-dire qu'il a été édité en très grande quantité. Donc à un moment, ça a été un film qui a été un minimum connu et mis en avant.
Ah, mais absolument. Non, je dis pas le contraire. Mais ce que je parle bien du moment de sa sortie. Et justement, toi, tu parles des DVD, ça veut dire c'est le moment où il entre en vidéo, où il a une deuxième vie sur le marché, une forme de bouche à oreille.
Parce que quand il est sorti en salle, il a marché lors de The Doctor ou pas ?
Alors ça, je me rappelle plus, mais ça m'étonnerait. Mais surtout, je sais qu'à l'époque, il n'est pas perçu par le public comme un film cool pour.
Parce qu'il y a un truc aussi, c'est
que. Ça veut dire qu'il ne devient pas après.
Mais c'est ça, la plupart du temps, les films qui deviennent des films pour ados, c'est pas forcément des films adoubés par la critique. Je vais ressortir American Pie, Scary Movie, et puis là je regarde, mais en plus avec Emily Hirsch aussi, je l'ai redécouvert il y a pas longtemps, Girl Next Door, ça reste, et c'est pas si accessible que ça non plus, hein. Ça reste des thématiques pour adolescents bien plus pointues que ce qu'on a aujourd'hui, hein. Le côté je vais défendre une star du porno qui veut s'en sortir.
Avec Alicia Cuthbert.
Et Emile Hirsch, du coup.
Tout à fait.
Tout à fait. Donc, en fait, j'ai l'impression que, en effet, c'est pas des grosses sorties populaires. Et c'est là peut-être que ma nuance est mal faite. C'est des films qui étaient appréciés par les ados. Parce que ça avait des codes télévisuels qui étaient consommés en masse par les adolescents.
Je me demande dans quelle mesure aussi Hollywood, à un moment, c'est pas un peu rétro-pédalé sur ce qu'on considère aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, comme des expérimentations formelles, parce que Lords of Dogtown, c'est le cas quand même, hein. Faire rentrer le filmage à la MTV, pour dire grossièrement, dans le champ du 7e art, c'est une expérimentation, quoi. C'est une audace. Et le truc, c'est que le film sort en 2005 de mémoire. En 2006, il y a un autre film, qui est pas du tout un teen movie, qui est encore moins un film indépendant, parce qu'il a coûté la bagatelle de $130 millions, qui a en quelque sorte, faire rentrer ou essayer de faire rentrer dans le giron
Josiane 45.
Non, toujours pas.
Ah, bien
qui a essayé de faire rentrer dans le giron du 7e art une esthétique que beaucoup à l'époque ont regardé de loin avec dédain et ont qualifié de télévisuelle, c'est le Miami Vice de Michael Mann, qui était tourné intégralement en numérique.
2006.
Ah, je me Miami disais Vice. Bien que le si truc, tu citais que... pas Michael Mann ou Spielberg, ouais. tu allais non, exploser. Truc,
c'est là, pour le coup, c'est lié à Lords of Dogtown directement, c'est que ce film-là, beaucoup de gens le regardaient de loin en se disant « Ok, l'image numérique, ça n'a aucun avenir, c'est pas du cinéma, c'est moche, c'est défini, on voit tout, ça n'a aucun sens. » Et les studios ont perdu, enfin le studio qui a produit Miami Vice a perdu, je crois, 80 millions de dollars au box-office. Ce qui, à mon avis, a participé, parmi d'autres choses, à faire en sorte que les studios d'Hollywood se disent « Bon là, sur les expérimentations formelles, on va un petit peu se détendre un peu parce que là, ça paye pas, quoi. » Et je pense que même sur des films indépendants avec des budgets bien moindres et qui visaient des publics plus spécifiques, en l'occurrence les adolescents, je pense que ce genre de plantage, Miami Vice ou autre, a pu avoir pour effet de, entre guillemets, consensualiser un petit peu plus la forme de ces films-là.
Ah bah, j'ai les chiffres sous les yeux. Le film a coûté 25 millions de dollars. Donc, en 2005, hein, c'est pas la même chose, mais quand même, et sans budget com. Et il en a rapporté à l'international que 13.
Ah ouais, donc c'est quand même...
Donc c'est une belle plantade, ce film.
Ouais, absolument. C'est un beau plantage. Ouais.
Mais il est devenu culte par la suite, comme de nombreux échecs au box-office.
Bien, les amis, je vous remercie d'avoir échangé tous ensemble autour des seigneurs de Dogtown. Et tout ça ne nous dit pas, évidemment, si nos auditeurs sont plutôt petite roulette ou gros guidon, et surtout nous l'indiquer sur nos réseaux sociaux. Mais surtout, l'heure est venue, pour conclure nos aventures hebdomadaires, de nous poser la question de savoir qu'est-il arrivé au monde des franchises il y a une trentaine d'années. Car il faut le savoir, en 1993, les grosses marques, les IP comme ils disent aujourd'hui, ça n'était pas quelque chose de respectable. Si peu respectable que quand on a utilisé un des plus grands noms de l'histoire du jeu vidéo, ce fut pour aboutir à un cataclysme artistique et technique, un cataclysme qui, quand bien même il a poncé les rétines de millions d'enfants, il est peut-être temps de réhabiliter, il s'agit évidemment de Super Mario.
Ils sont plombiers.
Oh non, Mario, Luigi.
Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite.
C'est magnifique.
Quiconque possède cette pierre détient le pouvoir, devient maître absolu de l'univers.
Apportez-moi la pierre. Viens la chercher, vieux tétard. Plombier.
Il leur faudra sauver la princesse.
Super Mario Bros. Film qui ressort chez Pathé dans une édition collector qu'elle fait du bien aux yeux et sur laquelle il est écrit en quatrième de jaquette, en quatrième de couverture, je ne sais pas comment on dit, qu'il s'agit, et je ne vous mens pas, d'un des plus glorieux nanars des années 90. Alors que pour qu'un acteur du cinéma de patrimoine aussi sérieux et propre sur lui que Pathé vende son film comme ça, c'est donc bien qu'il y a eu un peu un Tchernobyl hollywoodien. Or, toi Arthur, tu n'es pas tout à fait de cet avis.
Ah, je ne suis pas de cet avis parce que j'ai découvert le film 30 ans après sa sortie. Donc je n'ai pas connu le bad buzz qu'il a pu connaître à l'époque, le fait qu'il était descendu par tout le monde, qu'il a été un vrai problème dans la carrière de ces cinéastes qui n'ont pas fait grand-chose par la suite et qu'il est encore vu comme l'un des pires films de jeux vidéo. Alors que moi qui découvre ce film à bientôt 30 ans, j'y vois plein d'autres choses. J'ai découvert, en fait, parce que c'est intéressant, on parlait il y a quelques semaines autour de ce micro, de Total Recall. Mais en fait, ce Super Mario Bros, les amis, c'est le descendant direct. Alors, moins bien, moins subtil, peut-être, mais il n'empêche que...
Peut-être.
Déjà, c'est une vraie curiosité ce film, parce que c'est donc l'histoire de Mario et de son jeune apprenti Luigi, qui sont plombiers dans la vraie vie et qui vont être transportés dans une dimension parallèle parce qu'en fait, Luigi va tomber amoureuse d'une archéologue qui s'appelle pas Peach, mais Daisy. Faut pas confondre. Hein. Et donc, ils vont être transportés parce qu'en fait, elle détient un œuf qui va permettre à... Bref, ils arrivent dans une dimension parallèle qui est le monde de Mario. Et donc là, on a tout l'imaginaire de Mario qui est représenté. Et c'est quand même assez fou de se dire que dans les années 90, on a voulu adapter Mario, mais en l'ancrant d'un côté dans une forme de réalisme où vraiment les Goombas, c'est des créatures un peu monstrueuses, où Yoshi est littéralement un bébé dinosaure, et en même temps, l'inclure dans une vision de la SF post-Total Recall, ou même, si je remonte un tout petit peu, en vrai, post-Blade Runner. cette vision de la grande ville très grise.
La mégalopole cradingue, quoi.
Mais en même temps, je trouve que ça fonctionne hyper bien, c'est hyper malin. Et puis, l'idée de base d'avoir pris Bob Hoskins... Alors, Bob Hoskins, si vous ne resituez pas, c'est quand même...
Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
Qui veut la peau de Roger Rabbit, exactement. Juste ça. Juste l'inspecteur de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc là, qui joue Mario, et le grand Dennis Hopper... Apocalypse Now,
Apocalypse Now, Easy Rider,
Blue Velvet,
True Romance, Speed aussi, fait le méchant de Speed,
Land of the Dead,
un immense acteur, un grand pan d'Hollywood qui joue Boozer. Et quand il joue Boozer dans la dimension du jeu vidéo entre guillemets, eh ben il a des espèces de petits picots de gel qui vont donner les, qui en fait qui est un précurseur de la mode des années 2000. Sans Boozer, peut-être qu'on n'aurait jamais eu la mode du gel, des pics en gel. On ne sait pas. En fait, c'est une vraie curiosité visuelle, ce film. Mais pas que. Parce que je ne sais pas si à l'époque, le film a été vu comme ça. Mais quand vous le regardez avec le regard de quelqu'un en 2023, en fait, c'est un film hyper politique, hyper engagé, qui va reprendre pour les personnages des Gambas, qui sont donc les soldats de Boozer, une imagerie quasi SS. Et en même temps, ça va parler de régression et de manipulation génétique pour abrutir la population. Et en même temps, il y a un côté hyper quasi marxiste dans la vision de la société, du combat contre le patriarcat presque. Et il y a même un truc quasi queer dans les costumes. Bref, c'est un film qui est vachement plus riche, qui va aller piocher dans de la pure dégueulasserie par moment, qui va rappeler du Cronenberg ou du Verhoeven en l'occurrence, comme je citais Total Recall, et en même temps qui est entremêlé d'une espèce de bisserie incompréhensible qui va et qui cite en même temps jeux vidéo en permanence. Enfin, c'est assez difficile à survendre, mais en gros, partie du principe que c'est un nanar inspiré de Cronenberg et qui va quand même aller puiser du côté de Mario Kart avec les bananes. C'est incompréhensible comme objet, et je suis hyper content qu'un film comme ça puisse ressortir en Blu-ray, parce qu'en plus moi je l'ai découvert comme ça, donc moi je le trouve plutôt joli, le grain fonctionne et ça n'a aucun sens, mais je l'ai vu et je vais le revoir et je vais le re-revoir et je l'ai en Blu-ray et je vais pouvoir le montrer à des gens. Et voilà, pour moi, là où ça devient plus qu'une bisserie, c'est que c'est un film que j'ai envie de montrer aux gens.
Bah, ce qui est très intéressant, il faut le mettre en regard du prochain Super Mario qui arrive tout prochainement sur les écrans internationaux, qui lui se veut un film, déjà d'une, capable d'engendrer une licence au cinéma, une franchise, qui se veut ultra respectueux tant de l'esthétique que de l'esprit des jeux Mario. Il veut satisfaire, et d'ailleurs il a réussi à le faire jusqu'à présent, il veut, dès ses bandes-annonces, satisfaire les joueurs afin que les joueurs s'y reconnaissent dans un mouvement qu'on peut qualifier de communautaire, là où à l'époque où est fait, au début des années 90, le Super Mario Bros, en fait, Hollywood considère que les jeux vidéo, c'est pour les débiles.
Bien sûr.
Vraiment, mais littéralement. Hein, c'est fait pour les débiles, mais il y a plein de débiles. Donc, on va acheter les droits, et puis on va essayer d'adapter ça comme on peut. Ça leur fera bien plaisir, ils viendront voir. Mais donc, ce sont des adaptations qui ne pensent jamais en termes de respect, qui essayent soit de plaquer des recettes, soit qui vont complètement au pif, au hasard, la fleur au fusil. Et donc, ça donne cette espèce de film qui, effectivement, est totalement absurde.
Et puis, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les films des années 92, 13, 14, 15, 16, qui est, c'est la naissance du numérique, des effets numériques vraiment, mais on va quand même faire beaucoup de pratiques. Donc en fait, il y a un grand effet numérique qui est le passage dans la dimension chelou, où là, c'est effectivement assez laid, mais tout le reste est en effet pratique. Donc, les espèces de grands soldats Goombas qui ont des toutes petites têtes de reptiles, des effets pratiques.
Bah, ce sont même les dernières années des effets pratiques. C'est-à-dire que c'est le moment où on les maîtrisait le mieux, où ils étaient arrivés au summum de ce qu'ils avaient à proposer.
Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un vrai rejeton, alors sans doute rejeté, désolé pour le jeu de mots, de Total Recall. Parce que c'est vraiment dans la continuité de la monstruosité physique, corporelle, crasse-pouille. Et en même temps, on sent qu'on est sur un terrain de glissant parce que...
Bah, c'est Total Gogol, quoi.
C'est Total Gogol, c'est exactement ça. C'est total Mario Gogol, j'adore. Vraiment, ça a été une découverte, je ne l'avais jamais vu avant, et en même temps, ça va chercher dans du body horror, et ça va chercher dans du pur guignol cartoonesque débile. C'est jouissif.
Et pour se rendre compte, peut-être pour ceux qui nous écoutent, pour bien se rendre compte du fossé qui a été franchi avec cette époque-là, c'est que à l'époque, lors de la promo du film, Bob Hoskins dit ce qui serait impossible de révéler aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les fans, les fous furieux, les psychopathes. Il révèle qu'il, quand il commence le film, il n'a aucune idée de ce que c'est. Quand on lui dit que c'est un jeu vidéo, bah, il s'en cogne. mais vraiment, qui n'en a rien à battre. Vous imaginez aujourd'hui, sur, je sais pas, imaginons, il y a déjà eu des adaptations, mais peu importe. C'est la première adaptation de Pokémon au cinéma, en film live, il y a Brad Pitt, et en promo, il dit, je sais pas ce que c'est un truc des japonais, c'est de la merde. Vous imaginez le scandale, quoi. C'est-à-dire que c'est dingue à quel point l'industrie a changé et a décidé de prendre en compte ou d'essayer de devancer les désirs des spectateurs et des fans.
Moi, j'ai un petit hot take, et je terminerai peut-être sur ça, une prise de position un peu clivante. Je suis comme ça, je suis polémique. Je ne vois pas de meilleure adaptation de jeu vidéo pour l'instant. Je réfléchis, hein. Même par exemple à Détective Pikachu, je préfère ce Mario Bros dégueulasse. Après, je n'ai pas encore vu le Mario de 2023. Peut-être qu'il sera vraiment aussi bon que ce qu'on peut en espérer.
Et ce qui est sûr, c'est que c'est bien meilleur que The Last of Us.
Ouf. Allez hop, la petite
je te déteste.
Bah non, mais tu viens de dire la même chose.
Je parlais au, en cinéma, je parlais au cinéma, ça compte pas. Voilà. Non, t'as raison, The Last of Us, c'est super. Non, mais voilà, je trouve que c'est en tout cas l'une des meilleures adaptations parce que ça va chercher dans le matériel de base pour en tirer tout à fait autre chose, tout en comprenant qu'on fait un film de cinéma avec des codes, avec une histoire et qui va essayer de raconter une histoire qui n'a rien à voir avec les jeux en plus. Enfin, je trouve que ça comprend ce que devrait être une adaptation du vidéo.
Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, des films, de nos interventions, de notre sens de l'humour, de la légèreté de mes accents hebdomadaires sur nos réseaux sociaux. Nous nous retrouverons vendredi prochain pour parler notamment d'un film dont la légende dit déjà qu'il sera un des plus grands de l'histoire du cinéma, doublé d'un succès colossal qui fera passer Avatar 2 pour un Playmobil dans un évier. On parle évidemment de Shazam 2, le projet préféré des opticiens. D'ici là, on pense bien fort à vous, on vous embrasse très fort. Bye les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.